Alain Labat, bonjour.
Bonjour.
Alors, le peuple coréen conservera comme un trésor son amitié avec le peuple chinois et fera tout son possible pour renforcer et développer cette amitié, disait en 1958 Kim Il-sung. Voilà, merci. Tout d'un coup, j'ai eu un doute, je me dis, comment ça se prononce ? Premier ministre et secrétaire général du Parti du Travail de Corée du Nord. Alors, où en est aujourd'hui l'amitié entre la Chine et la Corée du Nord ?
Alors, c'est une vaste question hein, à laquelle il est difficile de répondre en quelques instants, mais ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est que les choses ont bien changé hein, depuis cette époque. Quand on discute avec les responsables chinois aujourd'hui de la Corée du Nord, d'abord, on n'entend jamais, aucun d'entre eux, ça m'a beaucoup frappé, parler de Kim Il-sung, de son fils Kim Jong-il et de son petit-fils, l'imprévisible Kim Jong-un, qui est parvenu au pouvoir récemment, mais il parle toujours du grand-père, du père et du fils. Il n'y a pas de Saint-Esprit apparemment, mais ça vaut peut-être mieux. Et quand les responsables chinois, notamment ceux du ministère des Affaires étrangères, évoquent les relations avec la Corée du Nord, ils sont unanimes à reconnaître que du temps du grand-père, c'est-à-dire de Kim Il-sung que vous venez d'évoquer, les relations étaient effectivement bonnes. Pour une raison simple, c'est que la République populaire de Chine et la République démocratique populaire de Corée ont été fondées presque à un an près, hein, 1949, pour l'une et 1948 pour celle de Corée, et qu'en 1950 a éclaté la guerre de Corée, 1953 précisément, qui a vu l'intervention des volontaires chinois et donc qui a forgé des liens très forts entre les dirigeants communistes chinois et ceux de Pyongyang.
Alors à quand peut-on faire remonter dans l'histoire les relations Chine-Corée ?
À l'aube de l'histoire, hein, vu ce qu'est la géographie de la région, sans refaire bien sûr toute l'histoire de la Corée, le monde chinois, la civilisation chinoise en l'occurrence, arrive à peu près au 4e siècle sur les rives du fleuve Yalu, qui aujourd'hui forme encore une partie de la frontière entre la Corée du Nord et la Chine. Et à partir de là, l'histoire de la Corée, de la péninsule coréenne, est très imbriquée à celle de la Chine. C'est un pays qui a reçu une influence considérable de la Chine sur le plan culturel, que ce soit philosophique, que ce soit en termes de système social. La Corée a aussi eu un système de recrutement des fonctionnaires. Le bouddhisme est venu de Chine. Ensuite, le confucianisme l'a remplacé. Et la Corée est un pays de civilisation chinoise. Ce qui est très frappant, lorsqu'on arrive pour la première fois dans le musée d'histoire nationale de Séoul, en Corée du Sud, on a simplement l'impression d'être dans un musée chinois, hein, vu la proximité donc, de l'esthétique, de l'idéographie en particulier, et de tout ce qui a relié donc, ces deux pays dans l'histoire, sachant que ces relations étaient quand même fortement ambiguës.
Et d'ailleurs, je pense que 70% des caractères chinois sont, des caractères coréens sont issus des caractères chinois.
Oui. Donc les Chinois ont écrit avec les Coréens plutôt ont écrit avec les caractères chinois jusqu'en 1894, hein, date à laquelle donc sous la pression japonaise qui préparait déjà donc l'annexion de la Corée, ils ont été contraints d'abandonner l'idéographie chinoise au profit d'un alphabet coréen, le Hangul, qui a été mis au point au XIVe siècle par un grand roi de l'histoire de Corée, mais qui n'avait pas réussi à supplanter donc à l'époque les idéogrammes chinois, ce qui fait que la littérature classique coréenne est rédigée en caractères chinois et en chinois classique. On trouve encore aujourd'hui en Corée du Sud, notamment des petits ermitages confucianistes qui sont des endroits souvent délicieux dans les montagnes, etc., qui vraiment témoignent de la prégnance du confucianisme dans la société coréenne.
Et puis les systèmes monarchiques chinois et coréens sont très proches ?
Oui, bien sûr. Hein. Il y a une sorte de parallélisme entre les dynasties chinoises et les dynasties coréennes. Par exemple, il y a certains royaumes de Corée qui ont connu leur apogée en même temps que certaines dynasties chinoises, en particulier celle des Tang, etc. Et le système politique a été littéralement calqué sur celui de la Chine. De plus, très tôt, la Corée, la péninsule coréenne et ses royaumes les plus importants ont reconnu la suzeraineté de la Chine, à laquelle ils payaient tribut, un peu comme tous les pays qui se trouvaient au périphérique de l'Empire du Milieu.
Alors finalement, jusqu'au XXe siècle, tout se passe plutôt bien.
Pas vraiment, hein, parce que, bien sûr, ce que je dis, il y a une relation fortement ambivalente entre Chinois et Coréens. D'abord, la Chine, elle n'a pas changé de politique depuis des millénaires, ne tolère pas de royaume puissant à sa frontière. Elle a détruit en particulier un grand royaume de Corée qui s'appelait le royaume de Koguryo, qui a été un royaume qui a duré plusieurs siècles. Et ces relations donc ont été parfois normalisées, comme ce fut le cas sous la dynastie des Ming, mais parfois la Corée a eu aussi à subir des attaques chinoises, comme la Chine a eu à subir des attaques de certains royaumes coréens, dont l'un d'entre eux a même s'est même emparé une fois de l'actuel site de Pékin. Oui.
Et puis finalement, les Coréens et les Chinois ont un ennemi commun, ce sont les Japonais.
Ça, c'est une tradition donc, qui est quand même plus récente. Hein. Donc, le Japon n'est pas apparu aussitôt que la Chine dans l'univers politique des Coréens. Mais sinon sous la forme de pirates qui ont ravagé longtemps les côtes de Corée, comme ils le faisaient d'ailleurs des côtes de Chine. Le Japon a essayé à deux reprises en vain d'envahir la Corée. Donc ça a été considéré très tôt comme un ennemi. Et lorsque la Corée a été subjuguée par les Mongols de la dynastie Yuan qui avaient conquis et qui gouvernaient la Chine, ils ont entraîné les Coréens dans deux tentatives également ratées d'invasion du Japon.
Et finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le communisme qui rapproche les deux pays. Est-ce qu'on pourrait aller un petit peu plus loin sur la guerre de Corée ?
Alors cette guerre de Corée, elle a été déclenchée donc en 1953. Le Nord, enfin ce qui s'est passé, donc il faut remonter à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez sans doute que l'URSS donc de Staline a déclaré la guerre au Japon en 1945 seulement et qu'il avait été conclu préalablement entre ce qu'on appelait à l'époque les alliés, c'est-à-dire les futurs vainqueurs, que dès la capitulation du Japon, donc les Américains occuperaient le sud de la Corée. Le sud du 38e parallèle, ce fameux 38e parallèle, et que les soviétiques donc occuperaient le nord. Donc dès que le Japon a capitulé, après avoir reçu donc les bombes atomiques, l'armée rouge donc a occupé le Mandchoukouo, donc le nord-est de la Chine, qui formait cet état fantoche donc gouverné par Puyi, le dernier empereur. Et puis elle s'est installée en Corée du Nord, donc conformément à ce qui avait été décidé jusqu'au 38e parallèle. C'est là qu'a été proclamée donc au sud la République de Corée, donc sous influence américaine, et au nord la République populaire démocratique de Corée, sous influence soviétique. C'est un pays donc qui s'est trouvé divisé, et qui l'est toujours, puisque c'est une sorte de survivance de la guerre froide. Et quelle survivance ! Donc le fameux Kim Il-sung qu'on a évoqué, donc premier dirigeant de la Corée du Nord, président éternel comme il convient de l'appeler, a décidé donc de réunifier la Corée sous son autorité. Il était convenu aussi dans les accords que des élections auraient lieu. Ces élections ont eu lieu au sud, elles n'ont jamais eu lieu au nord. Et donc Kim Il-sung a lancé ses troupes à l'assaut de la Corée du Sud. C'est une guerre qu'on appelait une guerre accordéon, ou est-ce que ça peut vouloir dire, donc une guerre surprise que personne n'attendait, et qui a vu donc très rapidement les troupes communistes de Corée du Nord donc arriver quasiment au sud de la péninsule coréenne, à l'exception donc de la région de Busan, qui est le grand port du Sud. Et là, il y a eu quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire des relations internationales, c'est-à-dire que pour la première fois, les Nations Unies sont venues au secours d'un pays agressé, en fonction de ce qui avait été décidé, donc lorsqu'elles ont été créées. Et le général MacArthur, qui est l'un des grands vainqueurs de la guerre du Pacifique et qui était proconsul au Japon, a pris la tête donc d'une coalition, bien sûr essentiellement américaine, mais pas seulement. Il y avait un contingent français qui a débarqué donc sur les côtes occidentales de la Corée et qui a repoussé très rapidement les troupes nord-coréennes jusqu'à la frontière chinoise. Là, il y a eu un épisode très célèbre, un conflit entre le président Truman et MacArthur, puisque MacArthur voulait porter la guerre en Chine et proposait même d'utiliser l'arme atomique contre la Chine. Donc, le front s'est stabilisé. Et on est arrivé donc à la situation qui prévaut encore aujourd'hui, c'est-à-dire que les deux Corées sont, au terme d'une paix qui n'a jamais été signée, au terme d'un simple armistice, sont séparées au sud donc par ce qu'on appelle une zone démilitarisée, qui porte formellement son nom, puisque c'est une des zones les plus militarisées du monde, paradoxalement, qui est une frontière quasiment infranchissable entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec un lieu qu'on évoque souvent en géopolitique, qui s'appelle Panmunjom, qui est un petit site qui est le seul point de contact, qui a été longtemps précisément le seul point de contact entre le Nord et le Sud.
Alors que s'est-il passé en Corée du Nord dans les années 90 ?
Dans les années 90, donc, il y a d'abord un autre dirigeant, donc celui qu'on a appelé le fils de Kim Il-sung, qui s'appelle Kim Jong-il. avec lequel les relations qu'il entretient avec la Chine sont beaucoup plus conflictuelles que son père, parce qu'il a commencé donc à mener un programme clandestin de construction de l'arme nucléaire, ce qui déplaît non seulement aux Américains, mais encore peut-être davantage aux Chinois. Et le régime, donc, qui est assez particulier, hein, aucun régime au monde ne ressemble donc au régime qui prévaut en Corée du Nord, a développé donc dans un premier temps un marxisme-léninisme classique comme en Chine, mais qui a été très vite revisité par son fondateur, donc Kim Il-sung, et plus encore par son fils Kim Jong-il. Ce marxisme-léninisme assez traditionnel, un stalinisme classique, a été remplacé par une idéologie qui s'appelle le Juche, hein, qui prône donc l'autosuffisance, la réunification, un nationalisme plutôt exacerbé, ce que certains appellent une coréanité, et a décidé de faire de son pays un état nucléaire qui est, selon lui, la seule carte qui lui permettrait de voir son régime survivre. Simplement, cette idéologie donc donne la priorité absolue à l'armée. L'armée coréenne est l'une des plus fortes du monde. C'est un pays qui a une part de PIB consacrée à l'armée qui est la plus forte du monde par rapport à seule l'Érythrée. C'est aussi un exemple éloquent, donc à un PIB comparable, donc consacré à la défense. Voilà, on est en bonne compagnie. Et ceci a conduit donc dans les années 90 à une famine extrêmement importante, hein, notamment à partir de 1995. Pourquoi ? Parce que donc c'était une économie stalinienne qui s'est conjuguée donc à des catastrophes naturelles. Et puis c'est un régime qui est quand même le plus autarcique du monde, par ailleurs. Hein. Donc qui a même contraint ses dirigeants à faire appel à l'aide internationale pour la première fois. Donc en l'occurrence, c'est le programme alimentaire des Nations Unies qui est intervenu pour secourir non pas la population coréenne, malheureusement, mais plutôt la nomenclatura qui en a bénéficié, l'armée ayant bien entendu, elle, tout ce qu'il lui faut.
Et cette famine a fait à peu près 1 million de morts. Quel est aujourd'hui l'état de l'économie coréenne ?
Alors, quand on essaye de répondre à des questions de ce type sur la Corée, il faut toujours se rappeler que c'est un pays dans lequel il y a très peu d'étrangers, d'une part. On ne voyage que dans des conditions qui sont extrêmement particulières. Il y a un tout petit peu de tourisme, notamment chinois, qui est assez folklorique. On en parlera si ça vous amuse. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que il y a eu ce week-end. D'ailleurs, la Corée du Nord est dans l'actualité. Il y a eu ce week-end donc quelque chose qui n'avait pas eu lieu depuis 36 ans, c'est-à-dire un congrès du Parti communiste de Corée du Nord qui s'appelle le Parti des travailleurs et qui a consacré donc le fameux Kim Jong-un, donc le fameux petit-fils de Kim Il-sung, dans ses fonctions donc de dirigeant suprême. Alors ce qu'on sait, notamment bien sûr à travers les Sud-Coréens qui sont les mieux informés donc sur leurs voisins du Nord, c'est que cette famine a quand même posé aux dirigeants nord-coréens un problème colossal. Hein. C'est un pays donc dont les habitants sont priés d'être convaincus dès l'enfance qu'ils vivent au paradis sur Terre. Quand la famine ravage le paradis sur Terre, la parole fut-elle de Dieu donc généralement sujette à caution. Et à partir de ces années 95, il y a eu un décuplement des flux de fuyards, donc de gens qui fuient la Corée du Nord vers la Chine. Et la frontière chinoise est devenue le lieu d'un commerce fou, hein, illégal et légal, avec la Corée du Nord, qui manque d'à peu près tout. Et cette famine donc, a eu aussi pour conséquence de mettre en cause la mainmise du régime, qui est à peu près totale sur la population. Il était avéré, donc, aux yeux de tout le monde, que le régime n'était plus capable de nourrir, fût-ce à minima, sa population. Donc, les Chinois ont beaucoup insisté au cours de ces années pour dire à Kim Il-sung, donc le dirigeant précédent, regardez, nous, on a bien compris que vous souhaitez rester au pouvoir. Hein, tout parti communiste le souhaite, mais vous y prenez mal. Regardez ce qu'on a fait, nous. Nous avons, dans les années 80, lancé une politique d'ouverture et de modernisation qui a fait sortir 400 millions de Chinois de la misère. Personne ne conteste ça. Et le Parti communiste est toujours au pouvoir. Regardez ce qu'ont fait les Vietnamiens. Ils ont mis du temps à comprendre. Ils ont fait ce qu'ils appellent Duo Moi, hein, c'est-à-dire une version vietnamienne de l'ouverture et de la modernisation. Le Vietnam se développe, s'enrichit, le niveau de vie augmente et le Parti communiste est toujours au pouvoir. Et vous, vous entêtez à utiliser une partie considérable de vos ressources dans un programme donc, d'accès à l'arme nucléaire. Vous savez que l'essai nucléaire qui a été tenté, donc, qui a été annoncé tout au moins en ce début d'année par le régime nord-coréen, concerne une bombe à hydrogène. Hein, ça n'est plus une bombe A, c'est une bombe H. Donc voilà, on peut mettre en question donc, la réalité des faits, mais c'est quand même quelque chose de très particulier. Et Il y a un livre qui est sorti aux États-Unis donc il y a quelques semaines, précisément donc qui raconte un peu l'évolution de cette société nord-coréenne et qui dit ceci. Alors c'est sûrement exagéré, mais ça donne peut-être une idée de ce qui peut se passer. Aujourd'hui, le capitalisme en Corée du Nord est comme le sexe dans l'Angleterre victorienne, c'est-à-dire que personne n'en parle, mais tout le monde le fait. Donc ça veut dire simplement que les rares personnes qui voyagent en Corée du Nord reconnaissent que donc, au moins dans les grandes villes, il y a un certain relâchement des contrôles étatiques sur l'économie. C'est-à-dire qu'on tolère à la campagne les lopins privés, un petit peu comme ça a été le cas en Chine au début des réformes. Ou alors il y a quand même un commerce privé qui se développe avec la Chine, essentiellement illégal, mais qui enrichit quand même beaucoup de monde. Et donc, il est sans doute probable que la société nord-coréenne aussi évolue à l'intérieur sans que l'emprise du régime sur la population ne se desserre, lui, de quelque façon.
On a parlé de des frontières entre les deux Corées et on a évoqué celle entre la Chine et la Corée. Mais finalement, il y a 1416 km de frontière. Comment la Chine arrive-t-elle à sécuriser cette frontière ?
Mais la Chine, ce n'est pas vraiment le problème de la Chine, c'est d'abord le problème de la Corée du Nord. Parce que la Corée du Nord, donc, vous savez, ce qui est frappant, quand, comme je l'ai fait là, l'été dernier, donc quand vous longez cette frontière sur une bonne partie de sa longueur, c'est que d'abord, ce fleuve qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud, d'abord, n'est pas très large. Et on imagine bien sûr qu'il est gelé l'hiver, donc aisément franchissable. Du côté chinois, de temps en temps, on est arrêté par des gardes-frontières qui regardent si on photographie, bon, enfin avec un zèle assez limité. On voit du côté nord-coréen, par contre, une sorte de désert avec des guérites, des barbelés, etc. Mais enfin, ça représente quand même pas quelque chose qui... rappelle vraiment le mur de Berlin. Ce qu'on sait, c'est que donc, ce que savent les Coréens, c'est que les tentatives de fuite donc sont sévèrement sanctionnées. Hein. Elles sont sanctionnées donc d'abord au niveau des intéressés, mais aussi de leur famille, puisque un système de responsabilité collective existe en Corée. Ce n'est pas un pays confucianiste pour rien. On sait aussi que les choses se sont adoucies parce que, bon, vu le nombre maintenant de personnes qui essayent de franchir la frontière et parfois de revenir sur le territoire nord-coréen, donc ceci dans le cadre d'activités commerciales, de simple survie parfois. C'est un nombre de personnes donc, qui s'accroît. C'est une frontière vraiment un petit peu étrange. Hein. Vous avez peut-être vu des photos donc nocturnes de l'Asie. Vous savez, on voit les villes donc qui sont largement éclairées, le sud, la Chine, etc. Et puis il y a un véritable trou noir. C'est cette Corée du Nord donc à part Pyongyang, vous avez une sorte de petit lumignon. Tout le reste donc c'est une sorte de désert nocturne. Et quand on longe la frontière, donc on voit. Si vous voulez, la ville la plus proche est Tantung, hein, qui est la grande ville chinoise donc, au sud de la frontière entre les deux pays, qui est vraiment le haut lieu du commerce, encore une fois, sous toutes ses formes, entre la Corée du Nord et la Chine. Alors c'est une ville chinoise, comme toutes les villes chinoises, clinquante, bling-bling, avec, vous savez, tout le... la vie, une nuit nocturne trépidante, des magasins remplis, enfin une prospérité, voilà... comme on peut en voir un petit peu partout en Chine. Et puis, de l'autre côté, vous voyez la ville nord-coréenne qui est en face, qui est quasiment plongée dans l'obscurité la nuit. Vous voyez quelques personnes qui traînent sur les quais, etc. C'est une ambiance tout à fait particulière. Et dans les hôtels qui bordent cette frontière donc, entre la Corée du Nord et la Chine, vous avez dans les chambres des prospectus qui invitent les Chinois à faire du tourisme en Corée du Nord. Et alors c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on leur propose ? La Corée du Nord est vue comme une sorte de Disneyland de la Chine de la Révolution culturelle. C'est-à-dire que pour les jeunes Chinois, si vous vouliez savoir un petit peu qu'est-ce qu'ont vécu vos parents dans les années 65-70, écoutez, voilà, venez passer une semaine donc, en Corée du Nord. Ouais, là, vous aurez vraiment une idée des prémices de la Chine de la Révolution culturelle.
Oui. Est-ce que vous avez rencontré des Chinois qui ont fait le voyage ? Qu'est-ce que vous en ont parlé ?
Alors, si vous voulez, quand on discute avec les Chinois de la Corée du Nord, donc il y a deux catégories de Chinois, c'est bien sûr les officiels. Donc là, il y a le discours officiel de Pékin, d'ailleurs, qui est très intéressant, hein, puisque bon, la langue du bois n'est quand même plus qu'elle était il y a des décennies. On peut vraiment avoir des discussions très intéressantes avec des responsables chinois, de think tanks, des universitaires, des diplomates, etc. quand on aborde ces questions de relations avec la Corée du Nord, avec les responsables provinciaux, oui, notamment des villes, des municipalités et des provinces donc, qui jalonnent cette frontière, là, on sent quand même que c'est un sujet qui est extrêmement difficile à gérer par les Chinois. Ça l'est au niveau, bien sûr, international, parce que c'est un régime dont le comportement est assez erratique et encore davantage imprévisible. Et s'il y a une chose que détestent les dirigeants chinois, c'est l'imprévisibilité. Par contre, pour les Chinois, enfin que vous rencontrez dans les transports en commun, dans les restaurants, etc., c'est un objet de curiosité, si vous voulez, tout à fait étonnant. Et dans cette ville de Tantong, vous avez des bateaux qui vous amènent donc le plus près possible de la Corée du Nord. Vous pouvez louer des longues vues, etc. Vous avez l'impression, enfin, vous connaissez. Si vous connaissez la Chine, vous savez la passion qu'ont nos amis chinois pour Disneyland, hein, sous toutes ses formes, bon, pour le meilleur et pour le pire parfois. Vous avez l'impression que pour le grand public chinois, c'est un pays qui est assez fascinant parce que, bien sûr, on peut difficilement y aller, hein, sauf dans le cadre de voyages très organisés, très, très organisés. Vous savez, il faut laisser votre portable à la frontière. Et pour un Chinois, être séparé de son portable, c'est véritablement quelque chose d'inimaginable. Donc, ça calme, par ailleurs. Et pour les Chinois de la rue, vous avez l'impression que c'est un pays assez fascinant, mystérieux et totalement incompréhensible, par ailleurs. Oui.
Quel signe veut faire Xi Jinping à Pyongyang quand il va à Séoul ?
Eh bien, écoutez, il veut montrer d'abord que c'est un pragmatique, hein, comme tous les dirigeants chinois. Pragmatique pourquoi ? Parce que les relations avec la Corée du Sud sont, sur le plan politique, diplomatique et économique, infiniment plus importantes et meilleures que celles avec la Corée du Nord, ce qui peut paraître paradoxal pour des régimes communistes. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est une exaspération croissante des dirigeants chinois devant le programme nucléaire nord-coréen. Quand Xi Jinping est allé à Séoul, il a fait ce qu'aucun chef d'État chinois n'a fait dans le passé, c'est-à-dire qu'il s'est rendu en visite d'État dans la capitale de la Corée du Sud sans être allé au préalable, comme tous ses prédécesseurs, d'abord à Pyongyang. Ceci pour montrer donc au petit-fils que les dirigeants chinois sont inquiets et sont excédés par ce programme nucléaire qui, pour eux, donc, contredit leur souhait. La Chine souhaite non pas forcément une Corée réunifiée, mais elle souhaite une Corée pacifiée, ça c'est clair. Et surtout, donc, ces gesticulations, si vous voulez, balistiques et nucléaires, ont pour effet de renforcer le Premier ministre japonais actuel, Shinzo Abe, dans sa volonté de réformer la constitution japonaise, d'y inscrire la possibilité de recours à la guerre, d'augmenter le budget japonais et, ce qui est le cauchemar des stratèges chinois, de voir le Japon, comme c'est le cas actuellement, s'insérer dans le système antimissile américain THAAD, comme la Corée du Sud et comme des pays comme Taïwan menacent de le faire également. Et c'est aussi un argument majeur au renforcement de la 7e flotte américaine dans le Pacifique. Donc pour les Chinois, tout est négatif.
Que se trame-t-il sous les eaux tranquilles du lac céleste des Zhangbaishan ?
Écoutez, je ne suis pas géologue, hein, mais simplement, oui, s'il y a un endroit qui est absolument extraordinaire dans cette région, c'est cette région qu'on appelle Zhangbaishan, hein, donc en chinois. C'est une région frontière donc, avec la Corée du Nord, dans la province septentrionale du Jilin. Le Zhangbaishan, c'est la plus grande réserve naturelle de Chine. Là, on est dans une Chine qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir, c'est-à-dire une Chine boisée, une Chine où, si vous y allez l'été, la température est agréable, etc. Et là, vous avez donc ce volcan qui a un lac qui s'appelle le lac céleste, qui est une pure merveille. Et donc, le ciel s'y reflète de façon extraordinaire. Et on sait on sait deux choses. D'abord, sur le plan historique, si vous voulez, la frontière passe au milieu de ce lac superbe, qui est un haut lieu du tourisme chinois et coréen du Sud, bien sûr, qui viennent là du côté chinois. Mais les Coréens du Nord donc appellent ce mont Paektu. Et dans l'histoire de la Corée, avant même la Corée du Nord, c'est aussi l'un des lieux d'origine du peuple coréen. Oui. D'ailleurs, vous avez dans une des villes qui s'appelle Xi'an, qui se trouve dans la région, vous avez un musée qui est le seul musée en Chine dans lequel il est interdit de photographier. Quand vous posez la question, on vous dit, vous comprenez, c'est un peu délicat parce que c'est pour nos amis coréens, en fait, du Nord et du Sud, parce que donc ils considèrent que l'origine, ce qui est tout à fait exact, hein, de leur pays se trouve là, mais non, quand même, pour nous, c'est la Chine. Hein, donc voilà, donc, bien sûr, il n'est pas question d'entrer dans ces polémiques locales. Et donc, sous ce lac tranquille, donc, il y a aussi quelque chose qui fascine les géologues, qui est le fait qu'il y a un volcan. dont vers l'an 1000, un petit peu avant l'an 1000, il y a eu une éruption qui a été l'une des plus fortes éruptions de l'histoire. Vous voyez, c'est un petit peu un endroit emblématique de la situation dans cette Asie orientale. Vous avez cette Corée du Nord qui est une véritable bombe à retardement compte tenu des enjeux géostratégiques de la région. Et puis, donc, là, on peut juste espérer, si vous voulez, que et la nature tout court et la nature humaine seront assez sages pour éviter qui l'embrasement nucléaire, qui l'embrasement volcanique.
Une réunification des deux Corées sous l'égide de Pékin est-elle envisageable ?
Alors ça, personne n'a jamais parlé de ça, si vous voulez, hein, vous imaginez. Simplement, quand vous discutez là, du coup, avec des Sud-Coréens, bon, puisque j'ai eu l'occasion aussi d'aller en Corée du Sud, moi, c'est la première chose qui m'a frappé, c'est qu'ils vous disent, écoutez, tout le monde à l'étranger parle de la réunification, même chez nous, mais en réalité, personne ne la souhaite. Alors vous dites, ah bon, mais regardez. Imaginez une seconde. Vous savez pourquoi la Chine soutient la Corée du Nord, comme les Occidentaux et les Américains lui reprochent. D'abord, il faudrait préciser que la Corée du Nord soutient la Chine comme la corde soutient le pendu. Et ça vous donne une idée quand même très précise de la situation. Parce que son obsession, c'est de voir ce régime s'effondrer. Les Chinois ont observé avec beaucoup d'attention l'effondrement du bloc soviétique, vous imaginez pourquoi, et la réunification de l'Allemagne. Or, vous avez vu combien a coûté la réunification de l'Allemagne. Or, la différence de niveau de vie, si vous voulez, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord n'a rien à voir. C'est un écart abyssal par rapport au niveau de vie entre la RDA et la République fédérale d'Allemagne au moment de la réunification, qui a coûté une fortune. Et donc, pour les Chinois, ça serait aussi, c'est la hantise aussi, quand ils voient les problèmes de réfugiés donc en Europe, de voir 23 millions de crève-la-faim, si vous voulez débarquer, parce que la frontière du Sud est infranchissable, hein, franchir le fleuve Yalou et se déverser dans ces provinces du Nord qui ne sont pas non plus les plus prospères de Chine, dont l'économie est développée, mais vous savez que c'est une région donc, dans laquelle la reconversion des grands conglomérats d'industrie lourde donc, d'avant les réformes pose toujours de sérieux problèmes sociaux, en fait. Oui.
Que penser des déclarations de Kim Jong-un qui menaçait récemment la Chine d'une tempête nucléaire ?
Alors, c'est très difficile, si vous voulez. Vous avez vu que c'est quelqu'un quand même qui... Vous avez vu d'abord sa coiffure, hein, qui est assez originale. Il n'y a pas que la coiffure. C'est quelqu'un qui a fait des études donc, dans les meilleurs pensionnats privés suisses. Et donc, qui connaît l'Occident. Hein. Et ce qui est frappant, quand vous lisez les récits, il y en a beaucoup publiés, aussi, également en français, de transfuges nord-coréens qui ont fui leur pays. Je parle de gens de la haute nomenclature, hein, proches du régime. Ils disent, mais les Occidentaux se trompent. Les Occidentaux imaginent que ce que craignent les dirigeants de Corée du Nord sont les Américains. Ils ont craint un président américain, Bush, au moment de la Deuxième Guerre du Golfe. Parce qu'ils ont cru que le prochain sur la liste serait eux. Mais les autres, surtout pas l'actuel, ils n'en ont aucune crainte. Par contre, ils craignent les dirigeants chinois. D'ailleurs, le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il, a déclaré une fois, je le cite, hein, « La frontière entre la Corée du Nord et la Chine est une frontière idéologique. Si vous voulez, la politique de réforme et d'ouverture chinoise, elle est aux antipodes de l'idéologie officielle du Juche nord-coréen. Ouais. » Et certains analystes chinois, très peu, hein, mais surtout étrangers, disent en réalité, mais ça... qui peut le dire vraiment, la Chine aurait une stratégie d'enveloppement économique de la Corée, parce que la Chine a une puissance économique et financière, donc il y a un dynamisme dans ce domaine qui n'est pas à démontrer, et que donc ce qui menacerait peut-être le plus la Corée du Sud, c'est de devenir une espèce, sous une forme ou sous une autre, hein, de colonie économique chinoise, si elle n'arrive pas véritablement à hausser le niveau de vie de ses habitants, à des minimaux quand même qu'on peut imaginer, enfin, notamment quand on voit que même Cuba évolue, et de quelle façon. Donc là, il est probable que les dirigeants chinois considèrent que les gesticulations nucléaires de la Corée du Nord les menacent aussi. Quand vous regardez maintenant le rayon d'action des missiles balistiques et nucléaires nord-coréens, bien sûr, leur ambition, c'est d'atteindre très rapidement le territoire américain, l'île de Guam dans le Pacifique, l'Alaska. Mais ça comprend déjà une bonne part du territoire chinois. Oui. Et c'est un régime qui est jugé, enfin, quand on discutait avec des responsables du ministère chinois des Affaires étrangères, qui sont des diplomates par définition, donc qui emploient un langage fleuri ou châtié, pour le moins imprévisible.
Mais que se passerait-il si la Corée du Nord attaquait la Chine ?
Alors ça, c'est difficilement imaginable, si vous voulez. Les Nord-Coréens savent que déclencher la guerre sous forme balistique ou nucléaire serait, non pas une tentative de suicide, mais un suicide. Alors, on espère pour tout le monde, hein, et aussi pour eux, quelque part, qu'ils ne sont pas dans cet état d'esprit. Mais si vous voulez, ça, c'est quelque chose, c'est une hypothèse qui n'est pas vraiment du jour. Ce que craint tout le monde, si vous voulez, ce que craignent les Américains, les Japonais, les Sud-Coréens et les Chinois, c'est que c'est un dérapage. Vous voyez, compte tenu de cette situation extraordinairement volatile, il faut savoir que la Corée du Nord a une stratégie de provocation quasi permanente. Hein. Elle pratique le terrorisme, des attentats, des infiltrations, etc. Elle a attaqué deux fois le palais présidentiel de Corée du Sud. Elle a déposé une bombe dans un avion sud-coréen au moment des Jeux Olympiques de 1983. Il y a eu récemment des provocations militaires, donc les Nord-Coréens ont coulé une corvette de la marine militaire donc sud-coréenne, ils ont bombardé une île, donc ces deux attaques ont fait des morts. La Corée du Sud a réagi sous le conseil des Américains avec une grande modération, c'est le moins qu'on puisse dire, mais la crainte de tout le monde, c'est que une de ces provocations dégénère, et que là, ça déclenche un mécanisme, compte tenu de la volatilité, encore une fois, de la situation que personne ne puisse plus maîtriser. Oui. Bien plus qu'une déclaration de guerre de la Corée du Nord à laquelle personne ne croit.
Certes, on n'est pas à l'abri d'un dérapage. Alain Labat, merci.